Radio Kaléidoscope 97 FM présente Au ras des rues, l'émission qui prend de la hauteur.
Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Kaléidoscope et vous écoutez l'émission Au ras des rues, l'émission qui vous fait prendre de la hauteur. Donc nous sommes vendredi 26 octobre et 28 octobre, pardon, n'importe quoi. Et aujourd'hui, autour de la table, comme d'habitude, l'équipe est réunie. Donc Benjamin.
Bonjour.
Sabrina.
Salut.
Marie-France.
Bonjour.
À la technique, Antoine, Yannick et Gaël. Et enfin, nous avons aujourd'hui un invité, Mariano Bona, qui est à l'association L'Algérie au cœur et qu'on va interviewer en deuxième partie de cette émission.
Bonjour.
Alors, vous pouvez, vous le savez déjà sûrement, mais je vous le rappelle, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site du Crieur de la Villeneuve en mettant l'adresse www.lecrieur.net dans votre moteur de recherche et vous trouverez tous les podcasts depuis maintenant presque un an et demi. Enfin, vous pouvez nous envoyer vos commentaires par mail, vos suggestions de sujets, vos critiques, vos coups de gueule si vous avez envie. À l'adresse suivante, auradesrues@lecrieur.net. Enfin, vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, auradesrues-rks97fm. Voilà, donc aujourd'hui, au sommaire, nous parlerons principalement de la date du 17 octobre 61. Alors, on fera le point sur ce que c'est au travers de l'émission. Je ne vais pas vous en dire trop maintenant. Mais on aura également un sujet sur les impôts locaux à la Villeneuve, les impôts locaux de manière plus générale, et sur la rénovation du local de la JAV. Voilà, je vous envoie tout de suite à l'agenda de la semaine. Benjamin, on t'écoute.
Alors, à l'agenda du Crieur de la Villeneuve, on commence avec le samedi 29 octobre, donc demain, de 10h à midi, il y aura le café brunch philo du Baratin sur le thème « Comment concevoir une société sans argent ?». Donc, c'est au Baratin, qui est situé au Patio 97, Galerie de l'Arlequin. Puis, toujours dans l'agenda, donc lundi 31 octobre, à partir de 19h30, il y aura une soirée spéciale Villeneuve à la Cinémathèque de Grenoble. C'est dans le cadre d'un cycle qui s'appelle « Traversées urbaines ». C'est la troisième séance de cette septième saison et il y aura trois courts-métrages qui seront projetés au cours de cette séance. Donc le premier, ce sera Monsieur Mars, un film de Jean-Jacques Henry qui date de 1972, qui est un entretien filmé avec le gardien de nuit de la Maison de la Culture à Grenoble. Donc la Maison de la Culture venait juste de sortir de terre à l'époque. Le deuxième film sera La forme d'une ville d'Éric Romer et Jean-Paul Pigat qui est sorti en 1975. C'est un reportage sur deux projets de l'AUA, Atelier d'urbanisme et d'architecture, celui qu'ils ont réalisé dans le quartier de l'Arlequin de la Villeneuve, de Grenoble et d'Échirolles, et celui qui a obtenu le deuxième prix au concours d'aménagement urbain de la ville nouvelle d'Évry 1. Et puis pour finir, le troisième court-métrage, le film Villeneuve, tout court, qui est un film d'Agathe Poche qui est sorti en 2015, qui retrace l'histoire des premiers habitants de 1972 jusqu'à nos jours. Voilà, donc c'est à la Cinémathèque de Grenoble, salle Juliette Berthaud. C'est au 1 passage du Palais de Justice, à partir de 19h30, et le prix de 6 euros en plein tarif, 5 euros en tarif réduit, et c'est gratuit pour les moins de 18 ans et pour les étudiants. On poursuit avec le lundi 7 novembre de 10h à midi, une réunion sur les contrats de ville. Alors les contrats de ville, c'est des subventions pour les associations des quartiers populaires. Cette réunion donc, est réservée aux associations du quartier de la Villeneuve. Ça aura lieu de 10h à midi à la salle d'animation du patio. Il y aura les délégués du préfet, du ministère de la Culture, qui seront là et de la ville, du coup, qui seront là pour expliquer aux associations comment fonctionnent les subventions contrats de ville. On continue avec le jeudi 10 novembre à partir de 11h45. C'est l'université populaire, de la Bourse du Travail. Donc, on avait reçu Philippe André, donc, l'investigateur de cette université populaire dans cette émission. C'était le 14 octobre. Jeudi 10 novembre, il y a une nouvelle conférence sur l'université populaire. C'est Gérard Magnien qui viendra parler de transition énergétique à propos d'EDF. Donc voilà, c'est assez technique, c'est assez concentré sur l'électricité. Mais si ça vous intéresse, c'est donc à la salle 164 de la Bourse du Travail. C'est au 32 Avenue de l'Europe. Et puis, pour finir, jeudi 10 novembre, toujours à 18h, il y aura dans le cadre du Festival Alimentaire la projection du film La Guerre des Graines. Ça sera à la Régie de Cartier, qui est au 17 Galerie de l'Arlequin. La Guerre des Graines, c'est un film de Stenka Killé et de Clément Montfort, qui est sorti en 2014 et qui est produit par Jean-Paul Lepers. Voilà, c'est un film qui dure 52 minutes et c'est donc à la Régie de Cartier, 17 Galerie de l'Arlequin, et c'est gratuit. C'est tout pour l'agenda.
Merci Benjamin. Alors Marie-France, tu voulais compléter avec le programme de la Semaine de la Solidarité Internationale.
Oui, donc la Semaine de la Solidarité Internationale qui se tient, la semaine elle-même qui est définie nationalement du 12 au 20 novembre, hein, mais en général, elle dure souvent 3 semaines ou davantage. À Grenoble, cette année, le collectif de la Semaine de la Solidarité de Grenoble, qui regroupe les associations qui animent cet événement, ont commencé le 15 octobre et ça se terminera le 26 novembre. Voilà. Et il y aura une douzaine ou 12-15 événements, manifestations qui seront proposées. Je vais vous parler peut-être de 2 événements communs qui sont organisés par l'ensemble des associations de solidarité internationale. Il y a une douzaine d'associations ou une quinzaine d'associations qui sont regroupées là. Ça, évidemment, ça ne regroupe pas toutes les associations de solidarité internationale de la commune de Grenoble. Néanmoins, il y aura une déambulation avec notre bien-aimé Batou Kavi de la Villeneuve, une déambulation festive donc animée par la Batoukada et avec des membres des associations du collectif de la Semaine de la Solidarité en plein centre-ville dans les différents marchés. Ce sera le samedi 5 novembre avec un rendez-vous à 10h place Notre-Dame le matin. L'autre événement commun des associations, ce sera une soirée où à la fois on fera la présentation de la solidarité internationale à Grenoble, mais aussi d'autres collectifs qui existent dans l'Isère. Il y a 8 collectifs en tout qui présenteront la semaine. Ce sera le mercredi 9 novembre à la Maison des Associations. Et ce sera 19h et à 20h, il y aura une table ronde sur la solidarité internationale, donc des échanges et un débat avec Bernard Salaman, délégué général de RITIMO, le réseau d'information sur le tiers-monde, René Valette, qui est un ancien président du CCFD Terre Solidaire, qui vient de Lyon, et Roberto Badilla, militant chilien de l'association Nuestra America. Donc ce sera l'occasion de réfléchir sur les différentes façons d'envisager la solidarité internationale, la mise en question éventuelle et les discussions. Voilà, on peut citer d'autres manifestations comme, bon, il y en a une qui est déjà passée, c'était la journée Nuestra America, Notre Amérique, de l'association de solidarité avec l'Amérique latine de Grenoble. C'était un débat sur l'internationalisme aujourd'hui, donc le samedi 15 octobre, et puis un concert avec un pianiste chilien et des musiciens de Grenoble qui l'accompagnaient. On peut citer aussi le dimanche 6 novembre à 17h, un spectacle, je ne sais pas trop comment dire, parce qu'il y a à la fois spectacle, vidéo, de la danse, de la musique. Et c'est un parcours culturel et historique qui retrace des événements survenus dans l'Empire ottoman, qui a mis sur les chemins de l'Exode des milliers de Grecs et d'Arméniens au début du XXe siècle. C'est l'association Arménie, Échange et Promotion qui présente ce spectacle donc à 17h et la participation aux frais est de 7 euros. C'est en partenariat avec le Centre d'information interpeuple de Grenoble. Voilà. Le mardi 8 novembre à 20h, ce sera le planning familial et le groupement des éducateurs sans frontières qui présentent un film le mardi 8 novembre, donc à 20h. Diffrette, c'est un combat contre les traditions du mariage forcé en Éthiopie. Voilà.
Merci Marie-France pour cette programmation bien copieuse.
Bien, on pourra parler des autres parce qu'on en a jusqu'au 26 novembre.
Ok, eh bien, on y reviendra. En tout cas, on a un bon programme. Et puis, sachez que cette émission va être diffusée sur 2 semaines parce qu'on va prendre des vacances la semaine prochaine. Et donc, cette émission du 28 octobre sera diffusée sur 2 semaines. Donc, vous pourrez garder cet agenda plus longtemps. Voilà. Alors, Sabrina, tu voulais nous parler des impôts locaux et de la taxe foncière. Alors, c'est à toi.
C'est ça. Alors moi, je vais vous parler de la taxe foncière et des impôts locaux à la Villeneuve, plus précisément. Parce qu'en fait, le 23 septembre, à la salle 150, il y a eu une réunion des copropriétaires. Le thème a été les impôts locaux. Les points abordés lors de cette réunion, ils ont été plutôt axés sur les actions et les propositions et sur les inquiétudes qui sont ressorties de cette réunion. Donc, je vais vous les citer. Alors, ils voudraient interpeller Christine Garnier, vice-présidente de l'Aglo Habitat Foncier, sur la question de la mission d'urbanisme, saisir aussi les personnes en charge du dossier, faire une action spectaculaire comme bloquer l'avenue Marie-Rénoir, demander de l'aide à l'association CLCV, c'est une association de consommation de logements et de cadres de vie au niveau national pour la défense des consommateurs et des usagers. Il voudrait aussi interpeller Catherine Racoz, élue du secteur 6, sur nouveau programme de renouvellement urbain, l'ANRU ou l'ANRU 2, pour avoir plus de mixité. Il voudrait aussi écrire au président de l'ANRU et participer aux réunions de l'agence. Ils souhaiteraient constituer un collectif et devenir ambassadeur de leur logement. Suite à cette réunion, il a été ressorti aussi des inquiétudes. Les inquiétudes qui ont été dites sont les suivantes. Comment faire venir de nouveaux habitants? Essayer de trouver des manières pour réhabiliter l'image du quartier. Avoir une action volontariste sur l'entretien, le nettoyage, l'embellissement du quartier et y amener des activités. Essayer de trouver des manières pour réhabiliter l'image du quartier, je l'ai déjà dit. Et voilà. Donc après ça, une étude est en cours sur une réévaluation des bases de calcul sur la taxe foncière et les résultats seront connus en 2018. Les copropriétaires veulent saisir l'occasion des élections législatives pour interpeller les députés. Une des participantes de la réunion des copropriétaires a été aussi Florence Anaf, membre du parti Go Citoyenneté. Elle a écrit un article dans le journal Go Citoyenneté numéro 25 du 8 octobre. Si vous voulez aller voir les choses qu'elle a écrites, mais sur le site du CRIER, on écrira plus de choses sur les propos qu'elle a mis sur son article. Ensuite, le problème de taille et la base de calcul est périmée depuis longtemps. Les revenus cadastraux sont basés sur les estimations de 1970. Si un appartement est bien situé, desservi par de nombreux équipements, écoles, transports et communs, le revenu cadastral est donc les taxes sera élevé. En 1970, la Villeneuve sortait de terre, mais depuis, les logements ont vieilli et de nombreux équipements ont disparu. Or, le revenu cadastral n'a pas été recalculé, faisant de la Villeneuve un des quartiers avec les taxes les plus chères de Grenoble. Alors, il y a eu une action en 1994 mise en place par l'intermédiaire de l'association, la Confédération syndicale des familles, où il y a eu 900 lettres de réclamation des contribuables de la Villeneuve et du village olympique, où les locataires ont regroupé leur mécontentement. Ils ont réussi à avoir une révision des coefficients d'entretien qui indique la qualité de l'immeuble et le coefficient de situation particulière qui indique, lui, la situation générale du local dans la commune. Donc la révision des valeurs locatives pour l'ensemble des logements de la Villeneuve et du village olympique avait été obtenue en 1994. Ensuite, je vais vous donner des chiffres. Les taux de la taxe foncière à Grenoble est de 36,73%. Grenoble-Alpes Métropole, 1,29%. Département de l'Isère, 15,9%. Établissement public foncier local, 0,561%. Soit un taux d'imposition total de 54,481%. Avec tous ces pourcentages, je ne pense pas que vous compreniez grand-chose. Donc, on va vous donner un exemple. Un propriétaire qui habite un logement dont le loyer mensuel serait de 500 euros paierait 500 fois 12 fois 0,5 fois 54,48%, soit 1634 euros de taxes foncières. Voilà.
C'est beaucoup.
C'est très, très beaucoup. Oui, c'est cher. Ensuite, un rappel sur la taxe d'habitation aussi. La taxe d'habitation en 2016 concerne tous les logements. Elle est égale à la valeur locative diminuée selon la situation familiale et les revenus multipliés par les taux d'imposition. Le taux de la taxe d'habitation à Grenoble est de 21,52%. Bon, je n'ai pas d'exemple pour ça, mais c'est très élevé. Donc voilà, la prochaine réunion des copropriétaires sera organisée le 3 novembre 2015 au Grand Parc.
Voilà. Merci Sabrina pour ce point technique. Alors on va faire notre première pause musicale pour se reposer un peu le cerveau. On va écouter donc Yaraya de Dahman El Harachi, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est un musicien virtuose au banjo, originaire d'Alger. Dahman est un très grand auteur, compositeur et interprète de musique shahbi, genre qui contribuera à réinventer Yaraya, qui parle du migrant sur le départ et qui a été reprise de nombreuses fois. Alors, j'ai appris que et peut-être cette chanson aurait été censurée pendant la guerre d'Algérie parce qu'elle disait en fait aux personnes de ne pas venir, de ne pas émigrer en France parce qu'en fait, ils n'allaient pas trouver ce qu'ils cherchaient. Voilà. Donc, on écoute Yaraya.
هل شفت البلدان العامرين والبر الخليج شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخليك يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مول عباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال من مول عباد الغافلين قبلك وقبلي
وعلاش هكذاك الزوالي ما تدومش الداوي لابطيت اعلم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
مسافر نعطيك وصايتي بيها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك اسرالي هكذا راد وقدر في الجبين صبحان العالي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبل منك وقبلي.
Voilà, donc c'était Ya Rayah de Darman El Harachi. Voilà, donc je vous ai concocté un petit micro-trottoir pour lancer la thématique de l'émission d'aujourd'hui et pour expliquer la raison de l'invitation de Mariano Bona dans notre émission. Donc voilà, c'est un micro-trottoir que j'ai fait sur le dévoilement de la plaque du 17 octobre 61. Et je suis partie avec mon petit micro pour récolter des avis sur l'inauguration de cette plaque commémorative installée récemment place Edmond Arnaud. Donc elle a été dévoilée le 17 octobre 2016. Je voulais savoir ce que cela signifiait pour les gens, s'ils pensaient que ce travail de mémoire était important pour la société française, s'ils étaient satisfaits de cette plaque. Je rappelle que donc, cette plaque commémore un massacre qui a eu lieu suite à une manifestation d'Algériens et d'Algériennes à Paris en octobre 61. Donc c'était la guerre d'Algérie et ces personnes manifestaient contre la levée du
couvre-feu. Pour la levée du couvre-feu.
Pour la levée du couvre-feu qui pesait sur eux et pour l'indépendance de leur pays. Voilà, donc pour cela, je suis allée sur la place en question, située au milieu du quartier Trécloître, historiquement quartier de l'immigration maghrébine de Grenoble. Et puis je suis allée place du tribunal, au cœur du quartier d'Europol, pendant une manifestation de policiers et de policières. Et enfin, j'ai fait un tour sur le pont piéton au-dessus de l'Isère, là où les associations avaient demandé de situer la plaque. Voici ce que j'ai récolté. On écoute. Qu'est-ce que vous pensez de qu'on ait mis une plaque commémorative à Grenoble pour se rappeler de cet événement ?
Ah, déjà, c'est quelque chose de bien. J'ai au moins une pas en avant pour connaître un petit peu l'histoire.
Un petit peu, donc je suis pas d'accord avec eux tant qu'ils ne reconnaissent pas le massacre et la guerre d'Algérie.
Du coup, voilà. Vous parlez de l'État, là ?
Bien sûr, je parle de l'État.
Et par quoi ça passerait une reconnaissance ?
Il n'y aura pas de reconnaissance, vu que Sarkozy, en 2002, il a voté une loi qui ne reconnaîtront jamais la guerre d'Algérie, donc ils ne la reconnaîtront jamais.
Mais vous, vous aimeriez quoi comme...
Qu'ils reconnaissent leurs erreurs, et l'Algérie aussi reconnaisse ses erreurs, des deux côtés, point la ligne, et qu'on en finisse là. C'est ce que j'aimerais, moi.
Par rapport à la plaque, est-ce que vous trouvez que c'est une avancée, qu'elle ait été mise là ?
Bon, c'est une avancée, c'est une reconnaissance de certains Français, mais ce n'est pas une reconnaissance de l'État français, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Il y a des Français qui reconnaissent et il y en a qui ne veulent pas reconnaître. Elle est bien à sa place. Moi, je trouve qu'elle est bien à sa place.
Les plaques, c'est bien joli, mais il aurait fallu qu'en 61, on condamne des gens comme ils ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont condamné des gens. Ça fait, on peut faire des plaques à Auschwitz, à droite, à gauche. Là, on fait une plaque, il y a eu des centaines de morts, mais il n'y a pas eu une personne qui a été jugée. À l'époque, tout le monde ne couvrait pas pour tout le monde. Donc, c'est bien beau, une plaque. Hein. Mais voilà, c'est tout. C'est de la connerie pour moi.
Merci.
C'est bien sûr. Les pieds noirs, ils en pensent, les pieds noirs.
C'est de la géopolitique. Là.
Pourquoi ils ont choisi la France, les pieds noirs ? Ils étaient algériens, pourquoi ils ont choisi la France ? Richard, les pieds noirs, 200 ans, ils sont restés algériens. Ouais. Pourquoi du jour au lendemain, ils ont voulu rester français ? Pourquoi ils n'ont pas fait la guerre avec les Algériens ? Pourquoi ils ne sont pas restés algériens ?
On n'a pas compris.
Eh ouais, l'argent.
C'est le pognon !
Parce qu'ils avaient le monopole. C'est...
Ah, elle est bien, elle est jolie, elle est du côté pas mal de sous, mais à mon avis, ça aurait pas coûté beaucoup plus cher de rajouter le nombre de victimes qu'il y a eu, parce que ça me fait mal au cœur, ça me fait mal au cœur. Maintenant, on n'ose même pas dire le chiffre. C'est d'une lâcheté assez incomparable.
Bah oui, comme ça, les gens, ils vont pas oublier.
Ouais.
Et puis ça rappelle aux gens... Les grands-parents, les arrière-grands-pères, qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà.
Et est-ce que vous trouvez que ça sert de repenser à ça aujourd'hui, dans le contexte actuel ?
Oui, non, parce que déjà, entre l'Algérie et la France, il y a toujours un petit truc qui ne va pas, il y a toujours une petite blessure. Donc de remuer un petit peu le passé, ça fait toujours mal aux gens. Et oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Oui, il faut qu'il le fasse. Comme ça, les gens, surtout les petits-enfants, comme ça, j'ai vu le nom de mon grand-père, voilà. Non, il faut pas les oublier.
Déjà, est-ce que vous étiez au courant ?
Pour la commémoration, je ne savais pas qu'il y avait une plaque.
Ok. Vous pensez que cette date, elle est importante commémorer ?
Oui, c'est important. C'est pour commémorer la répression d'une manifestation d'Algériens par la police, c'est ça, donc il avait fait à peu près 200 morts. Je sais pas, c'est une répression, je crois, qui s'est fait sous état d'urgence, donc ça reste assez actuel. Et puis il y a une mémoire aussi à propos de la guerre d'Algérie, qui est un petit peu tronquée. En fait, il y a eu une manifestation du Parti communiste en soutien aux indépendantistes algériens, et qui a été acculée dans une station de métro. Et je crois qu'il y a eu pas mal de morts, mais beaucoup moins que tous les Algériens qui ont été jetés à la Seine. Et ça a été beaucoup plus médiatisé et ça a eu tendance à occulter un peu ce qui s'était passé avant. Je crois que c'est assez récent, en fait, le fait qu'on se souvienne de cette date.
Pour rappeler aux générations actuelles ce qui s'est passé. Pour marquer les esprits, pour relever les erreurs du gouvernement de l'époque, parce que personne n'est parfait. Ça peut servir, oui et non, comme c'est marqué au musée de la Résistance, tant que nous nous souvenons, tout est possible. Alors, il faut se souvenir de ça pour ne pas refaire les erreurs du passé.
Bah, de ne pas oublier effectivement que même nous, on est capable du pire, je pense. Après, je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être envie d'oublier, donc ce qui est dommage, hein, je veux dire, faut pas non plus oublier les actes qu'on a pu faire nous-mêmes, pas reporter tout le temps la faute sur les autres. Et oui, non, ce sera important effectivement, parce que voilà, même moi, je ne savais même pas. Donc,
rien d'autre que bah, finalement, enfin qu'elle soit arrivée cette plaque, au minima, enfin.
J'espère que ça vous a éclairé sur voilà, ce que les gens pensent dans la rue. Alors, vous n'avez pas entendu un certain nombre de personnes qui ne connaissaient pas la date du 17 octobre 61 et qui n'ont pas souhaité répondre à mes questions. Et puis, bon, voilà, j'y suis allée à tâtons, j'ai testé. Et si je devais le refaire, je commencerais plutôt par la question suivante. Selon vous, est-il important qu'une société reconnaisse les épisodes tragiques qui marquent son histoire pour avancer ? Par exemple, soutenez-vous les personnes qui se battent pour la reconnaissance du génocide arménien ? Tournée ainsi, la question aurait pris un peu plus de recul et aurait peut-être fait parler tout plus de monde et de manière plus constructive sur le sens de tels actes dans nos villes. Car évidemment, tout le monde ne connaît pas la date du 17 octobre 61 et loin de moi l'idée de blâmer qui que ce soit. Quand apprendre les dates par cœur a été un vrai calvaire pour beaucoup d'entre nous, au point de parfois nous éloigner de l'éclairage important que l'histoire pouvait avoir sur nos vies, nos visions de l'avenir et notre société. Je voulais juste préciser que les policiers vers qui je suis allée pendant la manifestation n'ont pas souhaité répondre à mes questions, sous prétexte que je n'étais pas une journaliste et qu'il n'y avait pas intérêt à regarder le passé. Aurait-il dit la même chose s'il avait s'agi de l'histoire de la répression des résistants par le régime de Vichy ? On peut se la poser. En tout cas, comme eux, nous posons le débat sur l'espace public. Nous nous posons celui de la reconnaissance nationale de l'histoire de sa population comme un acte d'intégration, comme une reconnaissance de légitimité de tous ces sujets à prendre part au débat public et à la vie politique. L'inscription symbolique dans la ville des luttes passées se fait par des luttes au présent, des luttes qui continuent pour qu'enfin nous puissions faire société ensemble, faire de la place à chacun dans notre histoire partagée en préservant toute la richesse de notre diversité. Voilà, alors aujourd'hui on a invité Mariano Bona de l'association L'Algérie au cœur à venir nous parler de cette histoire de la plaque commémorative du 17 octobre. Alors peut-être que tu peux tout d'abord nous présenter l'association.
Alors l'association, c'est d'abord, elle a été fondée par des militants de Ralfron. Quasi exclusivement au départ. Alors après, elle s'est enrichie d'apports d'hommes et de femmes venus d'horizons divers, parce qu'on a fait beaucoup d'initiatives dans le temps. Donc, et pourquoi à la fin ? Alors déjà, pour ma part, c'est que je suis fils de républicain espagnol. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui ont pris très vite au sérieux la question de la montée du Front National. Voilà, on n'emballade pas une histoire comme celle de ma famille sans que c'est des conséquences sur ce que ça veut dire. Et d'autres, donc, qui ont commencé à faire la front, qui ont mené la bataille contre l'alliance droite-extrême droite au Conseil régional dans les années 90. Enfin, il y a eu tout ça. Donc, et puis, il se trouve que parmi ce cercle-là, il y avait aussi des personnes qui militaient pour le droit des femmes et qui ont accueilli des femmes algériennes. Elles sont venues et elles ont raconté l'histoire de l'Algérie pendant la décennie noire. On était au tout début des années 90. Et là, j'ai découvert, alors que je ne connaissais rien à l'Algérie, et qu'il y avait beaucoup de gens qui se battaient pour leurs droits, pour la démocratie, pour la liberté, et qui étaient en but à plein de choses, et que c'était le même combat. Au fond, c'était le même combat. Et donc, on s'est jeté là-dedans, et on s'est aperçu que l'Algérie, c'est un sujet très chaud, qui touche beaucoup de monde, qui fait se heurter plein de mémoires, qu'il y a plein de blessures, qui est assez mal connu là-dedans. Et on s'est retrouvé aussi en convergence avec le Centre Interpeuple, hein, qui est incontournable avec Jo, mais aussi des associations. Alors Azali, Amal, Alif, avant Amal, l'association Mavir, différentes associations. Et on a fait plein de débats, d'initiatives publiques. Alors, par exemple, des débats sur Frantz Fanon, des débats sur la question d'Erquil, la question des pieds noirs, puisque justement, c'est des questions qui sont sensibles. On a pris part à la campagne pour la libération du directeur du Matin, qui avait été emprisonné 2 ans par le pouvoir parce qu'il lui avait manqué de respect. Voilà, on a tenté de faire connaître en France la voix de tous ceux qui se battaient pour le droit en Algérie, parce qu'on s'est aperçu qu'en France, on connaissait très très mal ce qui se passait en Algérie.
Très bien. Et juste Ralph Rond, comment, qu'est-ce que c'était exactement ?
Alors, Ralph Rond, c'était un collectif. Alors, à l'origine, c'était un appel des 250. 250 personnalités qui disent il y a un problème, il y a une montée du Front National, il y a une montée des thèses xénophobes, etc. Et en plus, ça a tendance à être repris par le monde politique. Hein, parce que quand même, quand on vient à dire qu'ils posent les bonnes questions, mais qu'ils donnent les mauvaises réponses, c'est déjà accepter que c'est les bonnes questions. Déjà, c'est déjà poser le débat d'une manière un peu... C'est déjà dire, quelque part, l'étranger ou l'immigré, c'est un problème. On va tâcher d'y répondre de manière humaine, mais c'est quand même un problème. Là, on pourrait dire, c'est une richesse, c'est un apport. Ça fait partie de ce qu'on de notre histoire. Donc, on sentait qu'il y avait un vrai péril. Et puis, il y a eu toutes ces alliances, les municipalités qui sont passées à l'extrême droite. Et puis, on sentait bien qu'à droite, il y avait une tentation d'aller faire des alliances. Et voilà. Et à partir de là, il y a eu un appel qui est sorti. Puis, on a été des collectifs qui ont éclos un peu partout en France. Et en Isère, il s'est trouvé qu'il y en avait... notamment dans le sud-Isère, pas mal, puisqu'on a compté jusqu'à 14 collectifs, plusieurs sur Grenoble, il y en avait qui existent toujours très actifs à Voiron. Mmh. Voilà. Et on a fait une coordination, et on s'est beaucoup battu. Et c'est vrai que notre fierté, c'est d'avoir fait capoter l'alliance droite FN au Conseil régional, parce que quand même, Millon avait fait alliance avec le FN pour avoir... la présidence du Conseil régional. Et on a réussi à le faire capoter là où tous les partis politiques classiques nous disaient que ça ne servait à rien. Et on a réussi à mobiliser les parents d'élèves, les responsables de maisons de la culture, puisque quand même, le directeur de l'Hexagone de Mélan, par exemple, a dit « Moi, je refuse les subventions du Conseil régional. » Il y a eu des mobilisations, des manifestations. En Grenoble, à cette époque-là, il y a eu des manifestations de 20-30 000 personnes, ce qui est quand même colossal. On n'a pas connu de telles manifs. Donc, il y avait vraiment un mouvement de masse et qui était organisé par des collectifs, c'est-à-dire verticaux, pas vraiment de hiérarchie. On se réunissait, on regardait comment on faisait. Voilà. C'est ça, c'est une belle aventure. Quoi. Ouais.
D'accord. Alors, on va se faire une petite pause musicale pour ensuite revenir sur le dévoilement de cette plaque commémorative du 17 octobre 61 et comment l'association L'Algérie au cœur a pu participer à cette lutte. Voilà, donc on écoute Rachid Taha, Rock El Kasbah, qui est une reprise de Rock the Kasbah, considérée par les Clash eux-mêmes comme meilleur que l'original. Succès mondial pour l'ami Rachid.
Heads الادوية خارج وصوت كيشيخ وشيخ بعد منهم واحد منهم بالجيتارة العقب البندير يضرب من الحدود خرجوا من الحدود خرجوا
Voilà, donc c'était Rock the Casbah de version de Rachid Taha. Donc, Benjamin, je te laisse la main sur l'interview.
Alors, Mariano, pour rappel, tu es un des fondateurs de l'association Algérie au cœur. Tu étais présent le 17 octobre 2016 pour l'inauguration donc, d'une plaque en commémoration, en hommage aux victimes du 17 octobre 61. Pourquoi cette volonté d'installer une plaque et pourquoi dans ce quartier-là?
Alors, bon, déjà, il faut revenir quand même sur ce que c'est que le 17 octobre 61. Donc, ça a été rappelé, manifestation. Mais c'est un état d'urgence. C'est des militants. Quand même, parce qu'on oublie, parce que c'est un massacre, c'est vrai. Mais c'est quand même des militants qui manifestent contre le racisme, qui manifestent pour l'indépendance de l'Algérie et qu'on réprime violemment.
Et qui manifestent contre un couvre-feu qu'on leur impose. Un couvre-feu ethnique, en plus,
ethnique.
Puisque, qui est contre ce qu'on appelle à l'époque les Nord-Africains.
Bah, c'est les Français musulmans d'Algérie. Voilà. Donc, c'est le titre qu'on leur donne parce qu'on ne veut pas considérer qu'ils ne sont pas Français. Mais on, voilà. Donc, comme il faut faire une distinction, et il n'y a qu'eux qui sont concernés par ça. Dans un contexte où la guerre bat son plein, où il y a beaucoup de tensions, et les Algériens qui manifestent font le choix de manifester de manière pacifique. Donc, il y a la consigne qui est passée qu'il n'y ait aucune arme. Et ils y vont en famille, en dimanché, pour bien montrer l'importance. Donc, j'imagine qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait quelques arrestations, etc. Ce qui est à peu près certain, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait un massacre, parce que quand même... Donc, il est parlé des chiffres. Le problème, c'est que les chiffres, on ne les connaît pas, parce qu'on n'a pas accès aux archives. Le travail remarquable qu'a fait Jean-Luc Enoudi, c'est d'essayer de voir qui manque à l'appel. Et aujourd'hui, il y a entre 300 et 400 personnes qui manquent à l'appel. Voilà, c'est ça. Donc, on pense qu'il y a, du coup, 200 à 400 personnes qui sont mortes. Ben, voilà, ben, il manque à l'appel. Et il y a eu de l'ordre de 10 000 personnes raflées durant cette manifestation-là, stockées dans des gymnases, quand même, qui ont été brutalisées dans la cour de la préfecture en présence du préfet de police lui-même. Donc, on est dans un cadre de violence d'État, dans un cadre d'État d'urgence, dans un discours xénophobe. Alors ça a forcément une connexion avec aujourd'hui. Voilà. Et dans un moment où on refuse de reconnaître la nécessité de la décolonisation. Comme aujourd'hui, on est toujours dans la volonté de dire que la colonisation a joué un rôle positif, on est toujours dans la glorification des généraux de l'Algérie, on est toujours là-dedans, voire on autorise les partisans de l'OAS à faire des stèles commémoratives, etc. etc. Donc, le 17 octobre, ce n'est pas le passé, ce n'est pas un insecte dans un morceau d'ambre. C'est donc, toujours vivant.
Et donc cette plaque, c'était un peu pour contrecarrer ce discours qu'on entend sur l'Algérie, sur voilà, le rôle positif de la colonisation. C'était aussi de dire, bah non, regardez, l'État français n'a pas fait que du bien en Algérie.
Bah, c'était de dire. Voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire citoyenne. C'est-à-dire qu'on a des mémoires, on a, etc. Mais là, c'est une histoire qui se fait par appropriation par les citoyens de ce qu'est cet événement-là. Et c'est ça qui permet, d'une part, que les archives petit à petit s'ouvrent, que le travail soit reconnu, que Enoudi, qui a été traîné au tribunal par Papon parce qu'il parlait de massacre, finalement, il est acquitté de cette affaire-là, qu'il y a eu une plaque en 2001 qui commence à évoquer qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu la reconnaissance par Hollande en 2012, mais qui encore est assez courte, et que là, on a un texte qui dit quand même qu'il y a un massacre, que c'est pour l'indépendance, que c'est contre un couvre-feu raciste, et qui reconnaît les manifestants. Et ça, nous, on tenait absolument à ce que sur la plaque, il y ait la reconnaissance du rôle joué par les manifestants, par les Grenoblois qui se rassemblent, que c'est ça qui quand même fait partie de la richesse. Parce que pourquoi une plaque ? C'est que si on regarde ce que portent les murs, parce que ce que portent les murs raconte un récit. Or, il n'y a quasiment rien qui traite de l'histoire des étrangers, des immigrés et de leur rapport. C'est une des rares plaques à Grenoble, même si ailleurs dans d'autres villes, c'est encore pire, qui traite de ça, qui traite du fait que quand même, il y a eu des luttes pour la dignité, il y a eu des mobilisations, et que ces mobilisations ont permis d'avancer. Et donc c'est aussi, moi je tenais beaucoup à ce que ce soit dans ce quartier-là, parce que c'est aussi rendre hommage à ces mobilisations-là.
Oui, parce qu'il faut un peu, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'histoire de Grenoble, c'est le quartier historique de l'immigration maghrébine, et notamment algérienne, à Grenoble. C'est là où arrivaient beaucoup d'Algériens quand ils débarquaient à Grenoble.
Bien sûr.
Et c'est encore là où il y a beaucoup de sièges d'associations de solidarité avec l'Algérie ou de coopération franco-algérienne.
Voilà. Et les Algériens ont été, les militants de l'indépendance qui étaient à Grenoble ont été aussi beaucoup des militants syndicaux, le syndicat de la CGT, qui ont participé à des grosses luttes dans différentes usines de l'affaire. Et il y a eu toutes les luttes pour le logement, les foyers sans accotra, etc. dans les années 70. Donc c'est un gros apport. C'est un gros apport. Il y a beaucoup de solidarités qui se sont tissées, beaucoup de militants qui ont été formés dans ces luttes-là.
Et à Grenoble, la particularité c'est, par rapport à d'autres villes, c'est que tous les 17 octobre, il y a une manifestation en souvenir de celle du 17 octobre 61. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le but de cette manifestation ? Pourquoi se rassembler tous les 17 octobre ?
Alors, à ma connaissance, c'est la seule ville à part Paris où il y a tous les ans quelque chose qui se passe depuis 92. Alors pourquoi ? Parce que pour nous, l'histoire est vivante. Justement, ce n'est pas un pur exercice livresque. Et obtenir la reconnaissance de ce moment-là, c'est obtenir la reconnaissance des hommes et des femmes qui se battent. Et ça nous semble un enjeu. Alors évidemment, il faut quand même voir, et ça, dans la période actuelle, ça a beaucoup de portée, mais ce que je constate, c'est que depuis 25 ans, 24, 25 ans qu'on fait ça, ça a toujours une résonance avec l'histoire immédiate. C'est-à-dire que ce soit sur la question des sans-papiers, que ce soit au moment de la tentative de faire passer le rôle positif de la colonisation, on sent qu'il y a toujours cette volonté de réduire la parole des peuples, la parole des gens. Et finalement, si on veut être positif, le 17 octobre 61 annonce le 19 mars 62. C'est qu'il y a la violence de l'État, et le 17 octobre 61 montre à quel point l'État peut être violent, comme on l'a vu lors de la manifestation, lors des manifestations contre le travail, et qu'il peut être très très violent, mais que cette violence, elle a aussi du mal à enrayer la marge de l'histoire. Parce que le massacre du 17 octobre 61, la guerre d'Algérie elle-même n'a pas pu empêcher le fait de la victoire. Et je le dis tout le temps, et ça me semble fondamental, c'est que la victoire du peuple algérien le 19 mars 62, ce n'est pas la défaite du peuple français, c'est la défaite de l'ordre colonial. C'est aussi la victoire pour le peuple français. Voilà. Et ça, c'est important de le souligner.
En septembre, il y a Benjamin Stora, donc un des spécialistes, un des historiens spécialistes français de la guerre d'Algérie, qui est venu donner une conférence à Grenoble. Lui, justement, il a parlé de cette mémoire, de la différence de traitement qu'il y avait sur la guerre d'Algérie entre la France et l'Algérie, que chacun réécrivait un peu sa propre histoire, en fait. Voilà, tu étais présent à cette conférence. Voilà, qu'as-tu pensé un peu de ce que racontait M. Stora ?
Ah bah, c'est toujours très informé, très éclairant, hein, ça c'est évident. Alors, nous, on avait fait dans le passé une initiative qui s'appelait « Méditerranée de Rive, un rêve ». Alors, j'ai vu que c'est un titre qui avait été repris par ailleurs, mais on croit beaucoup au lien qui a des deux côtés. Et un projet qu'on n'a jamais réussi à faire aboutir, c'est d'obtenir une histoire de l'Algérie qui soit écrite des deux côtés. Par un collectif d'historiens algériens et français qui auraient accès aux archives, qui auraient accès à la connaissance, etc. Or, le 17 octobre, jusqu'à récemment, même en Algérie, était maintenu sous silence. D'ailleurs, le 17 octobre, aujourd'hui, en Algérie, c'est une journée de l'immigration. C'est à peine célébré, à peine reconnu, etc. Et en France, ça t'est. Il faut quand même voir que c'est une répression de l'ampleur que je viens de dire, qui se passe à Paris à 20h, et qu'on arrive à passer complètement sous silence. Et c'est pas, j'ai entendu, c'est pas l'affaire de Charonne. C'est qu'il y a une protestation tout de suite, la censure s'abat, et avec la loi d'amnistie, avec un certain nombre de choses, on va tout taire et ça va réémerger dans les années 80, comme ça.
On dit que la Seine était rouge ?
Oui, enfin, il y a eu des, on a retrouvé des cadavres. Voilà, et la répression a continué après. Il y a quand même ceux qui ont été, qui sont morts dans les cours de gymnase, etc. Enfin, c'est ça quand même. C'est quand même quelque chose qui est important à soulever. Et la connexion entre, voilà, l'histoire, c'est un cadre aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que disait Benjamin Storin, et ça c'est important, c'est que tous ceux qui sont concernés par la guerre d'Algérie, c'est le groupe le plus important en France. Et si on fait tous ceux qui ont une famille de quelqu'un qui est parti en faire la guerre, ceux qui sont fils, petit-fils ou filles, petite-filles de pieds noirs, les harkis qui sont arrivés ici, les migrants divers, etc., on arrive à plusieurs millions de personnes qui, par un biais ou par un autre, ont un lien charnel avec l'Algérie. Et ça, c'est des mémoires qui s'entrechoquent. Et la question, c'est pas de faire un tri dans les mémoires, c'est d'arriver à fournir un cadre dans lequel ils peuvent s'inscrire. Et ce cadre, c'est forcément les historiens qui l'écrivent. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas nier les souffrances des pieds noirs, les souffrances des harkis, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils n'ont pas vécu. Ça, c'est un ensemble de sensibilités, d'histoires, etc. Mais aujourd'hui, ça s'inscrit difficilement dans quelque chose qui peut être partagé, parce qu'il y a une telle entrave à la connaissance de l'histoire. Et ce n'est pas par hasard que c'est forcément une histoire aujourd'hui qui est citoyenne, qui se construit par l'effort citoyen.
Et l'idée, par exemple, ça pourrait être on peut espérer, par exemple, un manuel d'histoire franco-algérien.
Ah, ce serait le rêve. Voilà, là, ce serait le rêve. Et ça, je vais essayer de le proposer comme tâche maintenant. C'est-à-dire que cette plaque, on peut dire qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que ça peut commencer à faire un déclic pour réaliser des coopérations entre historiens et commencer à écrire un tel manuel.
Juste dernière question pour en revenir sur la plaque. Est-ce que politiquement vous avez été soutenu? Est-ce que vous pensez que ça, est-ce que tu penses que ça aurait été compliqué avec une autre municipalité de poser cette plaque?
Il faut être très clair. Hein. On l'a demandé. Ça nous a toujours été refusé. C'est avec cette municipalité-là que on a eu l'accord. Mmh. Donc là, il faut être très clair. Il y a eu des réticences, mais qui étaient plus liées à la peur d'avoir à affronter différentes forces, etc., etc. Mais on a sincèrement pas eu de problème, ni sur le contenu du texte. On a pu mettre le contenu du texte qu'on voulait. Donc j'ai vu qu'il y avait, nous, les chiffres, on les dit tout le temps. On dit que c'est un crime d'État, on dit un certain nombre de choses. Sauf que sur une plaque, comme les chiffres, on ne les connaît pas. Par contre, le volume que ça représente, s'il faut parler comme ça, malheureusement, l'amplitude du massacre, il est dit. Et ce qui est important, ce qu'il n'y a pas sur d'autres plaques, c'est la question du racisme, de l'indépendance de l'Algérie. Ça, c'était important. Non, avec une autre municipalité, on n'a eu que des refus. Ça fait plus de 15 ans qu'on demande régulièrement ce genre de choses. Au moment de l'indépendance, de l'anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, ils sont même allés jusqu'à donner la parole à des nostalgiques de l'Algérie française. Nous, on a demandé à pouvoir avoir une expression et on ne nous a simplement pas répondu.
Eh ben, merci beaucoup, Mariano, d'être venu nous éclairer sur ce dévoilement de la plaque commémorative du 17 octobre 1961.
Merci à vous de m'avoir invité.
Et en fait, on va faire directement un passage au sujet. Donc, Benjamin, tu voulais nous parler de la rénovation.
Je reprends directement la parole.
Tu vas parler beaucoup ce soir. De la rénovation du local de la JAVE.
Oui, le local, donc la JAVE, c'est le club de foot de la Villeneuve, qui avait brûlé en avril 2015, donc en même temps que le théâtre Prémol. Donc on a parlé un peu déjà dans cette émission de la reconstruction du théâtre Prémol, mais on n'avait pas encore parlé de la reconstruction des locaux du club de foot de la Villeneuve. Donc nous, au Crayon, on a voulu en savoir un petit peu plus. Et donc on a rencontré Farid Zario, qui est le responsable des jeunes de la JAVE, qui nous a dit que lui, il n'avait pas forcément de date, qu'on lui avait un peu promis une reconstruction à l'été 2017. Donc on a voulu un peu en savoir plus quand même. Et puis on a été voir quand même Sadok Bouzaïen, qui est donc l'adjoint au sport à la mairie de Grenoble, qui lui ne nous a pas tout à fait tenu le même discours. Alors déjà, il nous a dit que l'assurance n'avait rien remboursé sur la reconstruction du local du club de foot, puisque la franchise, il y avait une franchise de 1,5 million d'euros et que le coût de reconstruction était évalué à 500 000 euros. Du coup, l'assurance ne rembourse rien, donc tout est à la charge de la mairie de Grenoble. Comme dit Sadok, l'assurance ne rembourse rien, c'est tout pour notre pomme. Voilà, c'est un peu familier, mais ça montre un peu le personnage. Et puis, et donc lui, sur le calendrier, donc il n'avait pas le même calendrier que Farid, qui est donc le responsable des jeunes à la JAV, en tête. Il nous a dit qu'en janvier 2017, il y aurait déjà des premiers travaux pour enlever la toiture qui est complètement pourrie. Qu'il y aura un nouvel appel d'offres qui sera fait et que les travaux de reconstruction du club de foot seraient finis en fin 2017 pour une inauguration début 2018. Donc en fait, ça fera quasiment 3 ans, 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi après la destruction.
Eh bien, merci Benjamin pour ce point d'actualité sur le quartier. On va finir là cette émission qui a été assez riche en émotions peut-être. Je vous souhaite une bonne semaine, mais également une bonne deuxième semaine, puisque cette émission, comme je vous le disais, sera diffusée sur les 2 semaines qui viennent. Je prends juste le temps de vous rappeler que vous pouvez nous retrouver sur Facebook. Donc notre nom c'est Auraderu-RKS97FM. Vous pouvez nous envoyer des petits mails d'amour ou de colère sur l'adresse auraderu@lecrieur.net. Et enfin, vous pouvez nous réécouter en podcast, parce qu'on a pas mal d'émissions maintenant au palmarès, donc sur le site du Crieur de la Villeneuve, www.lecrieur.net. Voilà, et bien à bientôt.
À la semaine prochaine. Ah bah non, un an plus tard.
À dans 2 semaines.
C'était Au ras des rues, l'émission qui, espérons-le, vous a fait prendre de la hauteur sur Radio Kaléidoscope 97 FM. À la prochaine.